Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. En Hongrie, la mainmise de l'État sur les médias n'est pas complètement actée. La résistance tente de s'organiser. Alors que les oligarques proches de Viktor Orban ont acquis les principaux médias privés et fermé le premier quotidien national d'opposition, ils ont aussi fait main basse sur tous les quotidiens régionaux, 18 au total. À Pécs, une ville de 170 000 habitants au sud du pays, le journal local a lui aussi été racheté par un proche du Premier ministre, mais un nouveau journal sur Internet a vu le jour et tente de donner une information indépendante. C'est le reportage de Florence Labruyère.
C'est dans un chalet tout en bois, sur une colline enneigée de la ville de Pécs, qu'habite Marta Szabó. À 91 ans, Marta a des yeux bleus pétillants. Elle conduit encore sa voiture et s'intéresse à l'actualité. Mais le quotidien qu'elle lisait tous les jours a été racheté par un oligarque proche du Premier ministre Viktor Orban. Et ça, Marta n'apprécie pas.
C'était un bon journal, indépendant, mais maintenant, je ne le lis plus, il a complètement changé. Tout est beau, tout va bien en Hongrie, on augmente les salaires. Ils mentent comme des arracheurs de dents.
Avant que le média ne change de propriétaire, Marta s'était réabonnée pour un an. Alors le journal continue à arriver dans sa boîte aux lettres.
Le journal d'aujourd'hui va aller direct dans la cheminée pour allumer le feu.
En avril dernier, un nouveau média local, Szabad Pécs, a fait son apparition. Fondé par d'anciens journalistes du quotidien régional, il paraît uniquement sur Internet. Mais ce n'est pas ça qui va décourager Marta.
Il s'appelle Szabad Pécs, c'est un journal Internet et grâce à Dieu c'est un média libre. D'ailleurs, son nom veut dire Pécs libre. Et ils écrivent ce qu'ils veulent. Moi j'ai envie de le lire, alors je vais me mettre à Internet. Hier j'ai acheté un ordinateur portable. Il y a une jeune femme qui vient m'aider tous les jours, elle va m'apprendre. Vous savez, j'ai l'habitude du bricolage et j'ai les idées claires.
Szabad Pécs n'hésite pas à écrire des articles critiques sur la municipalité dirigée par le parti de droite de Viktor Orban. Ce nouveau journal web a environ 7000 lecteurs par jour. La rédaction n'a pas de bureau et travaille dans un café. Attila Babos est l'un des fondateurs du journal.
On a un peu d'argent qui vient uniquement de nos lecteurs, mais pas assez pour faire marcher un journal. On a trouvé des investisseurs potentiels. Ils étaient vraiment partants, mais ils se sont retirés. Des gens proches du gouvernement leur ont dit qu'ils auraient des problèmes s'ils négociaient avec nous.
Dans ce contexte difficile, il y a peut-être un espoir. Préoccupé par les menaces sur la liberté de l'information en Hongrie, le département d'État américain va verser une aide à la presse régionale hongroise grâce à un fonds doté de 700 000 dollars. Attila Babos va déposer un dossier de candidature pour son journal.
Avec cette aide, un journal comme le nôtre pourrait fonctionner pendant 2 ans. On pourrait faire un travail honnête et indépendant. Quand les journalistes sont bien payés, on ne peut pas les faire chanter ni les menacer.
Mais l'aide américaine ne sera versée qu'après les élections législatives d'avril prochain. Trop tard pour réduire le quasi-monopole du gouvernement sur l'information, selon la chercheuse Maria Bacharey.
C'est un beau geste de la part des Américains, mais c'est symbolique, ça ne va pas changer les choses. Le déséquilibre de l'information est tel que les prochaines élections ne seront pas équitables.
Ce jour-là, une manifestation citoyenne a lieu à Pécs. Dans la foule, Balázs Nemes, il est membre du parti d'opposition Momentum. Il se félicite de la création d'un nouveau média local, mais il est pessimiste.
Il y a 1 ou 2 pages ou 3 pages comme Szabad Pécs, ici localement, mais en général, au niveau du pays, il n'y a plus de médias objectifs. Et donc ça pose un grand problème à la population parce qu'ils n'ont pas la possibilité de savoir ce qui se passe. Donc ici, on parle des réalités parallèles. Donc il y a 2 réalités parallèles. Et l'une des deux, c'est les messages du gouvernement. C'est toujours représenté de manière que ça fait du bien au gouvernement. Je dirais que c'est un type de propagande gouvernementale qu'on n'a pas vu depuis le communisme.
Pécs Libre est le seul média à couvrir la manifestation. L'article sera lu par 15 000 internautes, un chiffre très important pour un journal local. Et peut-être un signe que les habitants de Pécs sont fatigués de la propagande gouvernementale.
L'économie grise, la plaie de l'économie lituanienne. Elle représenterait un quart des revenus du pays. Pour lutter contre les paiements non déclarés, le fisc a donc lancé une loterie pour participer. Il suffit d'enregistrer un ticket de caisse sur Internet et rêver ensuite d'empocher le gros lot. À Vilnius, Marielle Vitureau.
5 chèques d'une valeur de 200 euros sont à gagner chaque semaine. Quant au prix mensuel, il s'élève, lui, à 5000 euros. Les sommes en jeu sont coquette. 200 euros représente la moitié du salaire minimum brut en Lituanie. Et l'effort à faire pour participer à cette loterie est minime. Il suffit d'enregistrer son ticket de caisse reçu après être allé chez le coiffeur, avoir fait ses courses au marché ou avoir porté ses souliers chez le cordonnier. Pour que ce dernier soit valide, il faut qu'il comporte les lettres LTF et une combinaison unique de 2 lettres et 8 chiffres. Il a ainsi une valeur fiscale. L'idée de cette loterie peut paraître saugrenue, mais le fisc lituanien veut ainsi inciter les consommateurs à exiger des tickets de caisse et ainsi forcer les commerçants, notamment dans le secteur des services et des petits commerces, à payer leurs taxes. Les caisses enregistreuses sont obligatoires sur les marchés depuis 2011, mais ceux qui s'en servent réellement sont une minorité. L'économie souterraine est un mal qui ronge l'économie lituanienne depuis de nombreuses années. Selon l'Institut du marché libre, un think tank économique, un quart de l'économie lituanienne était absente des comptabilités officielles en 2016. L'organisme de sécurité sociale a réagi en envoyant des dizaines de milliers de courriers pour attirer l'attention sur les salaires versés dans des enveloppes. Selon ses calculs, plus de 165 000 personnes ont perçu moins que le salaire minimum en Lituanie, ce qui signifie qu'une partie des salaires est versée au noir. Ces lettres informent donc les salariés des conséquences sur leur future retraite et le montant des aides sociales. Cette loterie aura-t-elle un vrai impact sur l'économie souterraine? Il est encore trop tôt pour le dire. Néanmoins, les organisateurs ont reçu plus de 200 000 tickets de caisse en l'espace d'un mois.
C'est une autre manière d'envisager le futur des réfugiés en Finlande, petit pays de 5,5 millions d'habitants qui accueille aujourd'hui 30 000 réfugiés d'Irak, d'Afghanistan, d'Érythrée ou de Somalie. Les solutions étaient forcément neuves. Avant 2015, le pays ne comptait que 4 000 réfugiés. Pour leur donner une chance de travailler et de contribuer au développement économique du pays, l'ONG Startup Refugees a donc lancé un vaste réseau qui permet de mettre en lien les compétences et les besoins. Le reportage à Helsinki de Laurent Berthaud débute chez un barbier coiffeur tenu par un réfugié irakien.
C'est au cours d'une manifestation publique organisée par Startup Refugees que Johanna Alberi, coiffeuse depuis 30 ans, a découvert son futur associé, Omar, irakien, réfugié en Finlande depuis 2 ans.
Ils ont ouvert un salon éphémère et j'ai voulu aller voir par moi-même comment ils travaillaient et quelles techniques ils maîtrisaient. J'ai été vraiment impressionnée par leurs compétences et j'ai commencé à suivre leur activité et à faire leur connaissance. De fil en aiguille, on a réalisé qu'on avait beaucoup de choses et de projets en commun. Et nous avons ouvert ce salon ensemble. C'est un salon très ancien, il a 80 ans. Et aujourd'hui, nous avons toutes sortes de clients, des anciens, de nouvelles têtes aussi, des touristes et des réfugiés.
Un salon qui fait parler à Helsinki car on peut non seulement se faire couper les cheveux mais surtout se faire tailler la barbe et bénéficier d'une palette de soins inconnus jusque-là pour les hommes comme pour les femmes, l'épilation au sucre ou au fil, une découverte parfois un peu rude comme en témoigne cette jeune fille.
I am sorry.
En débarquant à Helsinki, Omar était loin d'imaginer que ses compétences étaient uniques en Finlande.
En arrivant ici, j'ai vite réalisé que je maîtrisais des techniques que les coiffeurs d'ici n'avaient pas, et que c'était un plus pour moi. Mais j'ai dû aussi me familiariser avec les savoir-faire d'ici. Car en Irak, les besoins des clients sont très différents, tout comme leur type de cheveux et le style de coupe. L'attitude des clients est différente également. Ici, j'ai dû apprendre la coiffure pour femmes, les techniques de teinture.
Clientèle inattendue, les hipsters à la barbe fournie, qui jusqu'alors à Helsinki n'avait pas trouvé le barbier idéal.
Oui, j'en vois pas mal. Tout à l'heure encore, il y a un hipster qui est venu se faire tailler la barbe. Cela faisait 2 semaines qu'il passait devant le magasin et quand il a vu que lui et moi avions le même type de barbe, il s'est dit « Ok, lui, c'est un professionnel. Je peux lui faire confiance. »
Omar n'aurait jamais pu se lancer aussi vite sans le réseau de Startup Refugees. Il fédère 250 entreprises, start-up, organismes officiels, dont des ministères, qui ont tous répondu présents à l'appel lancé par l'ONG en 2015. Camila Natos, jeune femme blonde au sourire communicatif, a été la première personne recrutée pour lister les compétences des demandeurs d'asile.
Les profils les plus courants sont dans le domaine des services, hôtellerie, restauration, coiffure, accueil des clients. Il y a aussi des ouvriers et des ingénieurs du bâtiment. Nous avons aussi beaucoup de journalistes qui ont dû fuir leur pays, ainsi que des photographes. Le tiers des réfugiés a fait des études supérieures. Nous avons même des doctorants, des médecins, des pharmaciens. C'est vraiment une palette très large de compétences. Selection of skills.
Et cela tombe bien pour un pays qui manque de candidats qualifiés dans plusieurs de ses secteurs d'activité. Sur les 2000 personnes déjà recensées dans les fichiers de l'ONG, 114 ont d'ores et déjà retrouvé un emploi, une quarantaine est en formation. Les demandeurs d'asile sont également aidés pour s'y retrouver dans le dédale des démarches administratives. Ils peuvent aussi bénéficier de coaching dans leur domaine de compétences. C'est toute la force du réseau qui leur vient en aide, y compris financière, pour monter leur propre entreprise. 40 sociétés ont déjà ainsi vu le jour. Les demandeurs d'asile ne viennent pas seulement combler les postes vacants, ils en créent aussi en proposant de nouveaux services, avec des innovations parfois surprenantes et pleines de bon sens qui émergent au cours des discussions entre les réfugiés et leurs mentors. Camila Natos de Startup Refugees.
Si aujourd'hui on fait tomber son téléphone et qu'on le casse, on doit d'abord trouver un magasin, généralement ouvert aux heures de bureau. Alors les réfugiés ont imaginé un système tout simple. Quelqu'un vient chez vous, sur votre lieu de travail, récupérer votre téléphone cassé et vous en prête un le temps qu'il soit réparé. Puis on vous le rapporte. C'est comme ça que la marque Just Fix It est née. Cette entreprise va recruter des réfugiés pour effectuer les réparations, mais aussi de jeunes chômeurs finlandais pour les postes de contact avec la clientèle. Voilà le genre d'idée qui peut donner naissance à un service encore inexistant ici.
Omar ne sait pas encore s'il pourra rester en Finlande. Sa demande d'asile a déjà été rejetée une fois. Il peut encore renouveler sa demande 2 fois. L'ONG déplore la longueur des procédures et c'est aussi pour cette raison qu'elle a choisi de venir en aide aux demandeurs d'asile.
Imaginez, vous arrivez en Finlande et vous restez pendant 2 ans dans des centres d'accueil à ne rien faire, hébergés dans une sorte de container, sans mettre vos compétences à profit, sans bâtir de réseau. Et puis d'un seul coup, vous apprenez que vous allez rester. À ce moment-là, vous n'aurez pas de CV ou alors il ne sera pas terrible. Et vos chances de trouver un travail non plus. C'est pour ça que nous avons décidé d'intervenir dès le début, peu importe que ces demandeurs d'asile restent ou pas.
Et s'ils n'obtiennent pas le droit d'asile ?
Eh bien au moins, ces réfugiés auront appris quelque chose. Ils n'auront pas l'impression d'avoir perdu 2 ans de leur vie et repartiront chez eux forts de ce qu'ils ont appris ici.
Aujourd'hui, Camila Natos voudrait convaincre d'autres pays de mettre en place un tel réseau dont elle vante le modèle à bas coût qui permet d'embaucher rapidement des demandeurs d'asile et de dynamiser la création d'entreprises. Et accessoirement, de résoudre un problème épineux à l'horizon 2030, le départ à la retraite de 130 000 Finlandais. Est-ce la Lithuanie, Bella,
Poland, and Ukraine, Moldova, Roman, eat some Bulgarie. Remaniement à minima pour le gouvernement britannique alors que la première ministre Theresa May doit reprendre les négociations sur le Brexit à Bruxelles. Dans le débat qui se poursuit entre Brexiters et Remainers, partisans et opposants au Brexit, il faut mentionner un magazine, The New European, qui, comme son nom l'indique, milite pour l'UE. Il ne devait paraître que quelques semaines. Il en est désormais à son 74e numéro. Un organe militant qui ne compte qu'un seul salarié à plein temps. Marie Billon est allée le rencontrer.
Matt Kelly fait chaque semaine l'aller-retour de Londres à Norwich, dans la région du Norfolk, à l'est de l'Angleterre. C'est là qu'est basée la rédaction de The New European. Un concours de circonstances, dit le directeur de publication, mais les loyers de la province sont certainement les bienvenus pour un magazine qui a un public bien ciblé et donc une audience limitée.
Nous n'avons jamais prétendu être grand public. Nous sommes clairement partisans. Nous ne nous adressons qu'aux Remainers, ceux qui veulent rester dans l'Union européenne. Nous n'essayons pas de convaincre les autres. À chaque nouveau numéro, nous réaffirmons l'existence d'une communauté. Nous avons toujours dit que les 2 livres sterling sont la cotisation au club. Et en retour, le lecteur a un magazine gratuit.
Vendu chez tous les marchands de journaux britanniques, on peut aussi trouver des exemplaires du New European sur les tables de certains établissements, dans les cafés branchés des quartiers bobos de Londres. Proposer le magazine est une prise de position idéologique pour les commerçants et les clients aiment poster une photo d'eux-mêmes en pleine lecture sur les réseaux sociaux. Mais que trouve-t-on dans les pages du New European? Le suivi des négociations, des critiques, beaucoup de critiques sur la manière dont elles sont menées, des éditoriaux écrits par des politiques, notamment comme l'ex-premier ministre Tony Blair, par exemple, des articles sur des sujets internationaux, car l'européen est ouvert sur le monde entier, précise Matt Kelly, et de l'humour pour remonter le moral des troupes.
Cette semaine était une semaine compliquée dans les négociations. Ça ressemblait tellement à une farce. C'était tellement le chaos qu'on a décidé d'imprimer une BD en première page pour expliquer comment on en était arrivé là. Il y a une bulle où un assistant demande si l'avenir verra les politiques actuelles comme des idiots ou des lying bastards, des sales menteurs. Les deux mots sont imprimés sur le flanc d'un grand bus rouge, comme ceux de la campagne pro-Brexit. Mais nous essayons aussi de ne pas nous focaliser sur la politique. Nous parlons souvent de grandes figures de la culture européenne. Nos lecteurs aiment ça, parce qu'ils se sentent européens et c'est un état d'esprit.
Matt Kelly avoue qu'un journal comme le sien aurait été utile avant le référendum. La campagne a en effet peu parlé de l'Europe culturelle ou de sa philosophie, mais ça n'aurait pas forcément marché, dit-il, car la communauté des enragés contre le Brexit n'existait pas encore.
C'est la crise politique en Moldavie, cette ex-république soviétique coincée entre la Roumanie et l'Ukraine. Le président Igor Dodon a été suspendu une nouvelle fois par la Cour constitutionnelle. Pour en parler, on retrouve notre correspondant dans la région, Régis Janté. Quelle est la cause de cette nouvelle crise politique?
C'est en fait un énième bras de fer entre la frange pro-russe et celle pro-occidentale du pays, sachant que l'opinion est très divisée en deux parties relativement égales entre pro-russe et pro-européen. Il s'avère qu'Igor Dodon, qui a été bien élu président en 2016, très pro-russe, s'oppose à la nomination de 7 ministres proposés par le premier ministre pro-européen Pavel Filip. Le chef de l'État, qui a peu de pouvoir dans le régime parlementaire moldave, peut en effet s'opposer à ces nominations, mais une seule fois. Mais comme il ne veut pas céder, la Cour constitutionnelle a jugé de suspendre ses pouvoirs temporairement le temps de nommer les ministres.
Et s'agit-il seulement d'une opposition entre pro-russe et pro-européen ?
Oui, au fond oui, même si derrière il y a aussi une autre dimension. Monsieur Dodon invoque de façon très peu argumentée, à vrai dire, le fait que certains de ses ministres pressentis sont impliqués dans un immense scandale bancaire remontant à 2012-2014, une affaire de blanchiment $1 milliard venue de Russie, dimension que le pro-russe Dodon a tendance à gommer. Mais au fond, dans le jeu politique interne de ce pays de 3,5 millions d'habitants, monsieur Dodon s'attaque à la toute-puissance de Vladimir Plakhotniuk, un oligarque qui contrôle véritablement le pays. Que ce soit le gouvernement et le premier ministre et son homme, le système judiciaire ou la banque centrale.
Un premier ministre qui serait donc soumis au pouvoir de l'argent et un président soumis à Moscou. Dites-nous en plus, Régis, sur Igor Dodon, en un mot, que représente-t-il?
Le patron d'un parti socialiste qui en a le nom, du moins, et s'est découvert une propension pro-russe assez récemment, après avoir été le supporter, voire l'acteur, du rapprochement avec l'Europe. Aujourd'hui, il agite en pion de la Russie. Il a par exemple récemment paraphé de son seul chef un mémorandum de coopération avec l'Union économique eurasiatique, le grand projet géopolitique de monsieur Poutine. Il affiche aussi un conservatisme et une proximité avec l'Église orthodoxe, comme le Kremlin.
Merci Régis Janté, à très bientôt. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr, rubrique émission, puis Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Restez à l'écoute de RFI. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité.